Quasar Anzière sur Radio G. On est heureux de vous retrouver après ces 15 jours très 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 intenses. Et figurez-vous que pour ce numéro, eh bien, il y a de la nouveauté dans l'air, tout du moins un retour tant attendu, celui de notre journaliste reporter téléportable. Bonjour Jean-Luc.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Angers.
Alors on va voyager avec toi, on va balader nos oreilles avec toutes les news internationales et françaises. On a un programme très chargé, des invités. Alors ce que je vous propose sans tarder, eh bien, c'est d'y aller et de commencer par l'agenda. L'agenda du mois de novembre pour Quasar. Alors Jean-Luc va être un petit peu concerné. Qu'est-ce qui se passe tous les samedis, Jean-Luc ? Interrogation surprise.
Alors tous les samedis, en tout cas au local,
oui,
à notre beau local, eh bien, il y a une permanence entre 17h et 19h. Nous ouvrons les bras et les portes pour vous accueillir, pour vous écouter, pour vous répondre.
Alors ça sera tous les samedis, donc ce sont les samedis 6, 13, 20 et 27 novembre prochains. Tu donnes l'adresse, Jean-Luc, s'il te plaît ?
C'est rue de Jérusalem.
Et le numéro ?
Je crois que c'est le numéro 10.
Mais non !
Mais non, plus. On a changé.
Plus.
Plus ?
Oui.
10 plus, voilà.
Voilà, c'est le 15, très exactement. Rue de Jérusalem, entre la rue des Banchets et le boulevard des Deux-Croix. Autrement, lundi 8 novembre à 19h, ce sera la réunion bilan de la Pride 2021 avec tous les partenaires. Donc s'ils nous écoutent, ils renotent sur leur agenda de nous y retrouver et de venir avec nous. Mercredi 17 novembre à 18h, c'est la réunion du pôle droit des étrangers. Alors si vous aussi, vous voulez aider, suivre et accompagner les demandeurs d'asile et les demandeuses, eh bien vous venez vous former, vous venez rencontrer l'équipe. Donc lundi 8, mercredi 17 à 18h, je vous ai dit donc, non c'est mercredi 17 pour la réunion du pôle droit des étrangères et étrangers, vendredi 19, je vais y arriver, voilà, il y avait deux lignes qui se croisaient, 20h30 c'est la conviviale, alors peut-être sous une autre forme puisque on avait recommencé à casser la croûte et puis le masque revient, la pandémie redémarre dans le département, donc comme les écoliers nous pourrions garder notre masque et peut-être avoir un autre format. Le CA vous en dira un peu plus dans quelques instants. Et puis, vendredi 26 et samedi 27, eh bien, ça sera la formation RAVAD à laquelle Quasar participera. RAVAD, le réseau d'aide aux victimes d'agression et de discrimination. Nous en reparlerons dans quelques instants, évidemment. Comme nous aimons être accompagnés dans ce Quasar Anzière, nous avons décidé de faire un tour des différents centres LGBT de France. C'est pour ça que nous accueillons maintenant Kevin Gallet qui est au téléphone. Bonjour Kevin.
Bonjour Stéphane.
Alors, il faut que tu nous parles un tout petit peu plus fort et que moi je mette un tout petit peu plus fort aussi. Ça va Kevin ?
Ça va et toi ?
Oui, très bien. Alors, dis-moi Kevin, on va te présenter. Toi, tu es le président actuel d'Equinox, le centre LGBTI+ de Nancy, c'est bien ça ?
C'est ça.
Alors, on a décidé de faire un tour des centres pour voir quelles étaient les principales activités de nos différentes associations. Est-ce qu'il y avait des différences, des similitudes ? Et puis surtout, quelles sont vos actualités à vous, à Nancy ?
Eh bien, nos actualités, donc nos activités à Nancy, pour commencer. Donc, on est un centre LGBTI+ généraliste, comme il y en existe beaucoup d'autres en France, avec deux autres associations membres. Il y a Equinox, un centre unitaire, avec deux associations, l'Association nationale transgenre et Spoutnik, une association étudiante situé sur les campus de Nancy.
D'accord.
Et donc nos activités sont principalement mises en œuvre par des personnes physiques, des individus, femmes et hommes. C'est une association assez mixte, avec des personnes de tous horizons, tous âges, toute identité de genre, toute orientation sexuelle, et consiste principalement en quatre grands pôles, hein. Il y a d'abord un pôle social, hein, lié à l'accompagnement des personnes, lié notamment aux personnes en situation de demande d'asile, aux questions juridiques, des permanences qui ont lieu comme vous, hein, j'ai entendu votre agenda le samedi après-midi, hein, puisqu'on est bénévole. Et puis un pôle militantisme qui consiste à mener des actions de visibilité comme la marche des fiertés de Nancy qu'on organise tous les ans en dehors des périodes de confinement et des problèmes d'organisation qui
on
suivent.
On a été moult à se la mettre tranquillement sous le coude, hein, c'est ça.
C'est ça. Et puis une commission, un pôle avec plusieurs commissions qui travaillent de bénévoles autour des questions de culture et d'éducation, hein, puisqu'il s'agit pas seulement d'accompagner les personnes victimes et qui sont sujettes à l'homophobie et à la transphobie, mais aussi de changer les mentalités et d'être dans une dynamique d'empowerment avec une action de type culturel avec un ciné-club, des soirées conviviales, des actions culturelles un peu plus larges avec des expositions et des interventions en milieu scolaire. Voilà. Donc ça, c'est des actions de prévention. Et puis un troisième pôle qui nous permet de nous organiser et puis de gérer les nombreux partenariats et les nombreuses sollicitations qu'il faut auxquelles il faut répondre chaque semaine.
Voilà. Politiquement, vous en êtes où, vous, à Nancy, avec, si je ne m'abuse, un maire de gauche qui a été élu?
Alors, comment dire? C'est un peu la révolution et un changement radical d'ambiance, puisque bon, l'action municipale de la nouvelle municipalité pas apporté encore beaucoup de fruits en raison de la crise sanitaire, mais par rapport à la majorité précédente, qui était une majorité alliant Parti Radical et La Manif pour tous, sous la houlette de Laurent Hénard.
Fort célèbre pour ses positions.
Voilà, exactement. Au moins, on arrive à avoir un dialogue serein avec les élus. On arrive à avoir des coups de main, des sollicitations même ponctuelles qui révèlent une vraie volonté d'avancer. Hein. Par exemple, lors des élections, tout de suite, des élus nous ont appelés pour travailler avec les équipes en charge de l'organisation des élections locales à ce que les personnes transgenres ne soient pas outées pendant les opérations électorales. C'est des petites choses,
mais il n'empêche que c'est beaucoup. Pour voilà, nous. C'est ça.
Ah, c'est effectivement. Énorme. Voilà. Et évidemment, après, on attend encore beaucoup en termes de subventions, de soutien matériel et puis d'inscription dans des réseaux régionaux, voire nationaux plus larges.
On est bien d'accord.
Voilà.
Quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez, à part celles dont on vient de parler? Est-ce qu'il y a des points vraiment sur lesquels vous insistez et qui doivent être des points d'amélioration dans les mois, dans l'année qui vient?
Le point central, je dirais qu'il y a deux points qui sont importants. Le premier, bon, à mon avis, ça va être bloqué par les procédures électorales et le calendrier politique. C'est des réformes d'ampleur sur le changement d'état civil libre et gratuit, sur la façon dont le système de santé est organisé, sur notre système éducatif. Mais le deuxième point qui est très important pour nous, en attendant mieux et en attendant des réformes d'ampleur, qui conduisent à l'égalité des droits et à la libre disposition de son corps, c'est la question des moyens alloués au centre LGBTI, parce que on est toutes et tous des bénévoles, ce qui implique que bon, forcément au moins 35 heures par semaine et parfois beaucoup plus, on a des activités salariées, d'étudiants, et puis par ailleurs des vies privées personnel, des soucis de santé, des soucis de famille. Et donc, le modèle qui repose exclusivement sur bénévolat, c'est pas possible. C'est pas possible à long terme. C'est très compliqué à gérer. Et donc, pour nous, et comme pour d'autres associations LGBT ou d'autres secteurs, je pense que le point principal d'amélioration aujourd'hui, c'est d'armer les centres LGBTI dans les territoires, financièrement, logistiquement, en termes de méthodologie, pour avoir des permanents, des permanentes, des salariés qui nous permettent de travailler dans de meilleures conditions.
Et alors, Pour l'exemple, hein, on n'est pas tout à fait dans la mesure des salariés, mais il y avait un webinar prévu cet après-midi dès 14h pour les services civiques et nous étions deux structures, deux associations parmi une douzaine d'inscrits. C'est vrai que la thématique du service civique est intéressante, mais pose néanmoins le problème du renouvellement au bout de 6 mois, c'est-à-dire que la personne formée part avec son bagage, mais on est obligé de former une autre personne et de reprendre encore plusieurs mois de formation. Et pendant ce temps-là, les choses se font, mais on va dire à moitié, quoi.
C'est un peu la crainte qu'on a avec les services civiques. Le problème, c'est qu'il faut non seulement recruter le service civique.
Et trouver le bon ou la bonne. Voilà.
Il faut trouver le bon ou la bonne, mais surtout l'encadrement du service civique. Voilà. Premièrement, c'est déjà un boulot bénévole
à plein temps,
qui est important.
À plein temps, oui.
Et puis, deuxièmement, le problème, c'est que les services civiques ne sont pas censés être des salariés, et donc ils sont censés être dans une dynamique, une logique de volontariat, tout en étant dans une situation en réalité de précarité.
Oui.
Donc, c'est loin d'être une solution idéale. C'est même une solution.
Qui pose question.
Plutôt détestable, en fait, sur le plan de la façon dont on considère le travail au sein des centres LGBT. C'est quelque chose sur lequel on a des hésitations, en tout cas.
Sur les 4 petites minutes qui nous restent, est-ce que tu peux nous parler de l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile que vous réalisez aussi, et puis peut-être un focus sur les demandes des personnes transgenres?
Alors, les personnes en situation de demande d'asile, le ressenti qu'on en a, c'est que ça nous apporte beaucoup au centre LGBTI, puisque ça nous permet d'avoir plusieurs nationalités représentées dans l'association, des gens qui aujourd'hui prennent des responsabilités, puisque depuis quelques semaines, on a un membre du CA qui est réfugié.
Oui.
Bienvenue
au club.
voilà, donc ça c'est vraiment super, et on souhaite que cette logique se poursuive. C'est aussi un travail militant qui est extrêmement chronophage, extrêmement compliqué, extrêmement technique, qui requiert beaucoup de temps. Donc ça c'est le pendant du droit d'asile. C'est très enrichissant, très valorisant, mais aussi très qui prend énormément de temps, quoi. Avec des soucis de méthode et de...
C'est ça.
Enfin, pour les personnes transgenres, là, c'était une situation à Nancy qui était un petit peu complexe, puisque les choses évoluent dans le champ de la santé avec une politique du gouvernement et surtout de l'Agence régionale de santé qui consiste à réorienter tous les publics vers des équipes officielles hospitalières. Le problème, c'est que les publics transgenres sont très insatisfaits des prestations en termes de délai, d'accueil et d'accompagnement, et puis aussi de traitements médicaux et hormonaux qui sont parfaitement insatisfaisants. Hein,
est-ce que c'est une montée vers la psychiatrisation?
C'est un maintien d'une logique de psychiatrisation qui était là avant, mais toutes les stratégies individuelles et associatives de contre-accompagnement avec des personnels de santé qui étaient plus susceptibles d'être à l'écoute des patientes et des patients est plus difficile du fait d'une concentration des pouvoirs et des moyens et de la visibilité dans le champ de la santé des équipes officielles type SOFECT. Donc c'est un maintien d'une logique de psychiatrisation qui prend pas en compte les décisions récentes de l'OMS qui trouveront à s'appliquer au 1er janvier 2022, à savoir la dépsychiatrisation complète de la transidentité. Donc il va y avoir un gros travail à faire dès maintenant et dans les prochains mois et les prochaines années pour une dépsychiatrisation effective de la transidentité au niveau national.
En tout cas, ça avance, hein, puisqu'on a vu que la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins à Rennes a rendu un arrêt qui stoppe les folles positions de feu la SOFECT et qui a changé deux fois de nom encore et dont le nom là ne me revient plus, mais ça
FPAT.
Alors non, justement, ils ont encore changé.
Ça a rechangé.
Ah oui, 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 pour noyer le poisson. Et le résultat, c'est que quand même, la chambre disciplinaire a bien noté que la position de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, plus ces recommandations qui datent quand même de 2009, ne sont pas étrangères au fait que des gynécologues peuvent prescrire les hormonothérapies et suivre les patients ou les patientes, en l'occurrence les patientes, pour les gynécologues. Donc c'est plutôt des bons points. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ce premier point concernant Equinox. Pourquoi je dis le premier ? Parce qu'on t'aime beaucoup et on ne va pas te lâcher comme ça. On te retrouve dans une poignée de minutes. On va te rappeler, ne t'inquiète pas, parce qu'on va parler d'une autre structure, plus fédérale celle-là, qui est justement la Fédération LGBTI+. On te dit à tout à l'heure. À ciao !
À tout à l'heure.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ben non, c'est pas Topette. J'aime beaucoup Pierre Benoît, mais c'est ça que je voulais.
18h10, 19h, ben voilà. Topette avec Pierre Benoît.
Ils sont mignons, ils m'ont laissé le pad de Topette. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça, les camarades ? Je vous tire les oreilles. Bon, on vous embrasse quand même, toute l'équipe de Topette, à partir de 18h sur Radio G. Mais n'y revenez pas, hein, s'il vous plaît. Bon, les musiques, on en profite. Feu Chatterton. Radio G, Quasar Ranzière, tout va bien ? Calé contre votre poste avec nous ? Cool.
Un grand renouveau souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit serveur central.
chanson la plus optimiste parmi celles qui sont pessimistes, celle de Feu Chatterton avec ce nouveau monde. Et oui, comme quoi, il y en a bien qui pensent à notre place. Oh là, attention, nouveau rendez-vous, le retour de l'info, 20h21. Quasar s'appuie sur son réseau de 27 rédactions à travers le monde, direction Varsovie, Dzień dobry. Jean-Luc Viala, les titres.
Loi stop LGBT en Pologne, la bataille a commencé au Parlement, les marches des fiertés polonaises en danger. Le Sénat italien a bloqué un projet de loi contre l'homophobie auquel les partis de droite et le Vatican s'étaient farouchement opposés. Des hackers mettent leurs menaces à exécution et diffusent des données des utilisateurs d'un site israélien de rencontres gays. Le gouvernement britannique envisage de créer une infraction pénale pour lutter contre les thérapies de conversion.
Bonjour Jean-Luc.
Dzień dobry Stéphane.
Comment ça se passe depuis la Pologne aujourd'hui? Beau temps?
Ça se passe fraîchement, on se pèle Stéphane en Pologne et j'aimerais bien être envoyé la prochaine fois du côté d'Italie, ça me ferait bien plaisir.
Mais on va y penser. La Pologne justement, Jean-Luc.
Eh bien justement, en Pologne, il y a des projets de loi qui ne devraient jamais aboutir sur le bureau d'un parlement. Eh bien, une pétition recueillant plus de 140 000 signatures a conduit à mettre à l'ordre du jour une proposition de loi remettant en cause les droits des personnes LGBTQI+. Le 28 octobre, les parlementaires polonais ont examiné la loi Stop LGBT dans une assemblée divisée. Le vote aura finalement lieu le 29 novembre de cette année. Le projet de loi, inspiré de la loi russe contre la propagande LGBT, qui a également essaimé en Hongrie, vise à interdire la prétendue propagande homosexuelle dans l'espace public, concrètement les prides. La tension était palpable dans l'hémicycle de la Diet, l'Assemblée polonaise. Une partie des parlementaires d'opposition ont qualifié la proposition de loi inhumaine et contraire au droit de manifester garanti par la Constitution. Pour Sébastien Tuller, responsable des questions LGBTI chez Amnesty International, si cette initiative ne provient pas directement du gouvernement polonais, il faut tout de même rappeler que la normalisation d'une rhétorique LGBTI-phobe par le gouvernement a créé un environnement dans lequel les gens se sentent autorisés à déverser leur haine contre nos identités.
Et l'Italie, justement, nous y allons, Jean-Luc?
Eh bien, à propos d'Italie et Sangelatti, la loi Zan, du nom du député Alessandro Zan, du Parti démocrate de centre-gauche, visait à punir les actes de discrimination et d'incitation à la violence à l'encontre des gays, des lesbiennes, des personnes transgenres et des personnes handicapées. Lors d'un vote secret, le 27 octobre dernier, à l'appel des partis d'extrême droite de la Ligue du Nord et de Fratelli d'Italia, le Sénat a empêché par 154 voix contre 131 son adoption définitive par le Parlement. La Chambre des députés l'ayant adopté en novembre dernier. Ce projet de loi, dans une nouvelle mouture, ne pourra pas être présenté au Sénat avant 6 mois. Selon les règles parlementaires italiennes, le blocage de ce projet est une page noire pour la démocratie et les droits. Le Sénat a décidé de rester loin des exigences réelles du pays, a réagi Alessandro Zan. Les détracteurs de la loi estimaient qu'elle risquait de mettre en danger la liberté d'expression et qu'elle aurait ouvert la voie à la propagande homosexuels dans les écoles, des arguments bien sûr rejetés par Alessandro Zan. En juin, le Vatican avait pris une mesure sans précédent en déposant une plainte diplomatique officielle contre la loi, estimant qu'elle violait le Concordat, le traité bilatéral entre l'Italie et le Saint-Siège. Le Vatican s'inquiétait notamment du fait qu'en vertu de la loi sur l'homophobie, les catholiques risquaient d'être poursuivis pour avoir exprimé des opinions en faveur des structures familiales hétérosexuel traditionnel. En réponse, le chef du gouvernement, Mario Draghi, avait déclaré que le Parlement était libre de légiférer sur cette question car l'Italie est un État laïque, pas un État confessionnel. Toutefois, Selon un sondage Demos NPI réalisé en juillet, la Loisanne bénéficierait d'un soutien populaire, 62% des Italiens y étant favorables.
Direction l'Israël maintenant, Jean-Luc.
Israël, où un groupe de pirates informatiques a annoncé mardi 2 octobre avoir diffusé des données d'Atraf, un site israélien de rencontres gays, dans le cadre d'une cyberattaque imputée par des experts à l'Iran. Profitez, voici les données d'Atraf, a publié dans un message le groupe de hackers Black Shadow sur la plateforme Telegram, accompagné d'un fichier à télécharger qui a été retiré peu de temps après sa mise en ligne. Le groupe, qui pourrait donc être lié à l'Iran, avait menacé le 30 octobre de révéler des données personnelles du site de rencontre s'il ne recevait pas $1 million d'ici 48 heures. Les appels vers l'association Agouda pour l'égalité des personnes LGBTI+ en Israël ont doublé en raison de la panique provoquée par l'attaque informatique, a indiqué Hila Peer, membre de la direction de l'organisation. Certaines personnes n'ayant pas officiellement fait part de leur homosexualité craignent pour leur sécurité si leurs coordonnées, photos personnelles et même statut VIH étaient diffusées, a-t-elle ajouté. Pour certains, ces fuites peuvent mettre leur vie en danger.
Et maintenant, nous passons au bref en Tunisie.
En Tunisie, Mounir Batour, le président de l'association LGBT Shams, qui milite pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie, a été condamné à 1 an de prison pour une publication sur Facebook jugée blasphématoire envers le prophète, bien qu'il démente en être l'auteur.
Maintenant, la Bulgarie.
Des ambassadeurs protestent contre l'attaque d'un centre LGBT+ à Sofia. Samedi 30 octobre, une dizaine de personnes ont pénétré dans les locaux de Rainbow Hub alors qu'une réunion était en cours. Ils ont saccagé les lieux et frappé une femme. Les ambassades des États-Unis, d'Australie, de Belgique, du Canada, du Danemark, de France, d'Irlande, des Pays-Bas, du Portugal, d'Espagne et du Royaume-Uni condamnent vivement l'attaque du Rainbow Hub, ont-ils écrit dans un communiqué commun.
Et maintenant, allons retrouver nos amis pêcheurs communs, le Royaume-Uni.
Les voisins d'outre-Manche, le gouvernement britannique envisage de créer une infraction pénale pour lutter contre les thérapies de conversion qui prétendent transformer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Le projet prévoit de punir d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans de telles pratiques. Cette disposition s'appliquerait à ces pratiques envers les moins de 18 ans en toutes circonstances et envers les adultes qui n'auraient pas librement consenti à y participer ou n'auraient pas été pleinement informés de leurs conséquences potentielles.
Et merci Jean-Luc. Et on se dit...
À tout de suite.
Juste le temps de te télétransporter dans le 49.
Oui.
Tu fais des merveilles. Hein. Quasar Anzière reprend la direction de Nancy, mais cette fois-ci pour une autre thématique, toujours avec Kevin Gallet qui est avec nous au téléphone. Kevin, rebonjour.
Rebonjour.
Comme quoi tu es fidèle et ponctuel, merci. Alors il nous reste une petite poignée de minutes quand même, tranquillement, pour qu'on puisse parler du sujet qui allait, comme on l'a annoncé, nous intéresser maintenant, c'est-à-dire la fédération LGBT+. Alors est-ce que tu pourrais, d'abord toi qui en es le secrétaire, nous rappeler son histoire un tout petit peu, d'où elle vient quelle est cette histoire jusqu'à aujourd'hui?
Alors la fédération LGBTI+, c'est une association qui maintenant a un peu de bouteille, hein, puisqu'elle est née en 2003 de la volonté de quelques militants et militantes éparpillés un peu partout, d'unifier, de travailler ensemble en fait, puisque chacun travaillant dans son centre LGBTI, à l'époque dans son centre LGBT local, il y avait un intérêt à travailler ensemble pour mutualiser un certain nombre d'actions, gagner en visibilité au niveau national et puis travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques. Voilà, donc c'est une fédération qui avance petit à petit, modestement, mais qui avance bien puisqu'elle rassemble aujourd'hui la plupart des grands centres LGBTI+ de France, hein, oui. Paris, Lyon, Nantes, Angers, Nancy,
Nice et d'autres. Voilà.
Nice.
Et son but n'a jamais été d'être hégémonie, évidemment.
Évidemment. Voilà. Non.
parce qu'on laisse la part au positionnement et aux envies des différents centres qui existent ou des associations qui ont finalement les mêmes missions que les centres sans forcément avoir les mêmes moyens. C'est ça qu'il faut retenir en réalité, puisque sur le territoire français, il y a une très grande diversité d'associations et qu'il faut, dans leur format respectif, pouvoir les respecter. Alors, une fois qu'on a dit cet aspect de l'histoire, la réalité de la fédération aujourd'hui, c'est quoi? C'est des possibilités de se voir, de se rencontrer, d'échanger, et comment?
Alors c'est l'essentiel du travail de la fédération LGBTI, hein, c'est ces rencontres qui sont organisées deux fois par an dans différentes villes de France, une fois en hiver, une fois en été, et qui sont l'occasion de réunir l'Assemblée Générale, mais aussi de travailler sur un certain nombre de thématiques d'actualité et de trouver l'occasion de se coordonner sur un certain nombre de campagnes nationales. Il y a aussi un gros travail, et c'est un des avantages, un des avantages de la pandémie, c'est qu'elle nous a appris à travailler en visioconférence et à distance un peu plus. Donc c'est vrai que aujourd'hui, le travail de la fédération, la réalité du travail de la fédération, c'est davantage de réunions plus thématiques sur des sujets particuliers qui permettent aux référents des différents centres LGBTI de se retrouver, voire d'autres membres de CA. Des centres LGBTI de se retrouver pour travailler sur des thématiques que d'habitude on travaillait plutôt à l'occasion des rencontres.
Voilà, ça effectivement. Quels sont les gros axes, les campagnes qui vont sortir sans trop d'effleurer, mais en indiquant tout de même certains thèmes et pour celles qu'on connaît évidemment et qui sont utiles aujourd'hui aux différents centres.
Alors le travail prioritaire de cette année, ça a été la finalisation de campagnes cofinancées dans le cadre d'appels à la DILCRA, en particulier un premier appel sur la question de la haine en ligne, qui a fait l'objet d'une campagne Ma fierté contre la haine qu'on peut retrouver sur le site internet de la fédération LGBTI. Le deuxième travail, ça a été une campagne assez inédite, assez innovante, sur la question des violences conjugales dans les couples de femmes. Parce qu'il n'existait pas d'outils de campagne et d'information pour les communautés de femmes dans les couples FSF. Donc ça nous a permis d'offrir au centre LGBTI un outil de travail et de prévention sur la question des violences conjugales, si cette campagne est appelée à se prolonger. Et dans l'avenir, et donc là sans effectivement déflorer, comme tu dis, la campagne en cours, le gros travail, c'est la question de la santé sexuelle pour les personnes transgenres. Donc les choses vont sortir prochainement, on va faire un peu de teasing.
Voilà.
Mais sur l'enjeu, c'est qu'il existe beaucoup dans la communauté LGBTI d'outils de prévention pour les personnes HSH, hein, personnes gays, bisexuelles, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, sur le VIH, les IST, on a beaucoup parlé de la PrEP, des différents moyens de prévention qui existent. On parle de plus en plus, et c'est heureux, de la question du chemsex. Donc la question de la santé sexuelle dans les communautés LGBTI est centrée sur les publics masculins, homosexuels et bisexuels. Et aujourd'hui, l'intérêt que sur lequel la chose sur laquelle on travaille, c'est la santé sexuelle qui touche aussi la santé mentale, la santé globale des personnes transidentitaires, FTM, MTF, non-binaires et toutes les situations.
D'accord. Quand tu as dit « il est heureux qu'on parle du chemsex », je suppose que tu signifiais par là qu'il est important de parler des dangers de la pratique du chemsex. On est d'accord?
Exactement. Voilà. Oui, bien entendu.
Voilà. Non, mais oreilles novices, soyons précis.
Oui, oui. On ne veut pas faire la promotion
du chemsex. Non, on n'est pas sur la morale, on est sur la prévention et l'attention portée aux pratiques, puisque la prévention, on ne le rappellera jamais assez, ne s'applique qu'aux personnes qui ont une sexualité. Celles qui n'en ont pas, elles ne viennent pas se mêler de la vie des autres. Ça me paraît assez évident. Une personne qui écouterait le podcast de l'émission et qui voudrait prendre contact avec la fédération, comment fait-elle ?
Eh bien, elle peut aller sur son site internet, fédération. Alors, faire attention parce qu'on a un nouveau site internet et l'ancien est en cours de redirection. Donc, c'est fédération-lgbti.org.
Tu le répètes ?
Fédération, fédération-lgbti.org.
Un grand merci Kevin pour ta disponibilité ce soir et de nous avoir parlé d'Equinox, notre homologue à Nancy, et puis de la fédération LGBT plus I plus. Bonne soirée à toi et au plaisir, à ciao.
Merci beaucoup, au plaisir, salut.
Comme la soirée est agréable, maintenant Dancing avec The Weeknd. Vous écoutez Radio G 101.5 Angers, le 49 Maine-et-Loire, et c'est Quasar on the Air, l'émission du centre LGBTI+ d'Angers, et ça tombe bien, du Maine-et-Loire.
I saw the fire in your eyes.
I saw the fire in the look in your eyes.
You tell me things you wanna try.
I know temptation is the devil in disguise.
You risk it all to feel alive. Yeah.
You're offering yourself to be a sacrifice.
You said you do this all the time.
Tell me you love me.
It's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath.
I am making that forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath. Nobody does it better, babe. Bring me closer.
Want me to hold on to your time.
Now pull me closer. Feel the heat between your thighs.
You're way too young to end your life.
Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
Ooh, it's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath.
I am making last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath.
I, nobody does it better, babe. Bring me closer, never, babe.
Take my breath.
On l'adore, il a du souffle. Le retour de l'information nationale, 20h39. Quasar s'appuie sur son réseau de 70 rédactions à travers le Maine-et-Loire, direction tout le monde dans le coin. Jean-Luc Viala, les titres.
Évolution de la façon de faire couple ou de faire famille. La défenseur des droits recommande le toilettage du droit funéraire et cela concerne nos couples. PMA pour toutes, une campagne nationale pour encourager les dons de sperme et d'ovocytes, lancée ces jours-ci. Brigitte Bardot, virée. 7 ans après, place à une location LGBTI+, on jubile.
Et comment?
Assassinat d'un gay de 19 ans en Haute-Saône, son compagnon parmi les 5 suspects.
Et là, on pleure. Bon Jean-Luc, la télétransportation s'est bien passée pour revenir de Varsovie à tout le monde.
Formidable.
Dans la région scholtaise.
Oh oui, je suis bien à tout le monde. Ah là là, tu vois, j'ai sorti le t-shirt et le Bermuda.
On reste sérieux parce qu'on va parler d'inhumation maintenant.
La hausse des divorces et du nombre de familles recomposées, l'instauration du PACS en 1999, du mariage des couples de même sexe en 2013, ou bien encore, cette année, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, conduisent à des situations jusque-là inédites en matière de droit à l'inhumation. Les évolutions sociologiques et juridiques de nos modes de vie se heurtent, pour Claire Hédon, la défenseur des droits, à un droit funéraire, je cite, « imprégné de la conception napoléonienne des relations familiales, verticales et attachées au lien du sang ». Fin de citation. Son rapport, publié le 27 octobre, évoque des exemples concrets rencontrés par les familles recomposées et les partenaires d'un couple en concubinage n'ayant conclu ni PACS ni mariage. La défenseur des droits recommande par conséquent une refonte de la réglementation funéraire intégrant les nouvelles formes de parentalité, dont celles LGBTI+, et de composition familiale. Le rapport restera-t-il lettre morte ?
C'est une bonne question. Tiens, la PMA de retour.
Et oui, les autorités sanitaires viennent de lancer une campagne pour le don de sperme et d'ovocytes suite à l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules, intitulée « Merci de leur donner la possibilité de devenir parents ». Cette campagne a pour but d'augmenter le nombre de dons annuels afin de répondre aux besoins des receveurs dans toute leur diversité, a expliqué l'Agence de la biomédecine, la structure qui encadre le don de gamètes et la PMA. La PMA ou AMP, assistance médicale à la procréation, son nom officiel, est ouverte aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, mais pas aux personnes transgenres. À la suite de l'adoption de la loi de bioéthique le 29 juin, puis sa promulgation le 2 août dernier. Jusque-là, elle était réservée aux seuls couples hétérosexuels avec des problèmes de fertilité ou souhaitant éviter de transmettre une maladie grave. Cet élargissement pose la question des dons de gamètes qui risquent de ne plus suffire à répondre à la demande alors que les délais sont déjà longs. À partir du 1er septembre 2022, un donneur ou une donneuse de gamètes devra obligatoirement accepter que son identité puisse un jour être révélée à l'enfant né de ce don, si ce dernier le souhaite à sa majorité. Pour les dons qui ont eu lieu avant cette date, les autorités contacteront le donneur et lui demanderont s'il accepte que son identité soit révélée à l'enfant qui en fait la demande.
Allez messieurs, à vos peaux, c'est tellement jouissif la PMA. Histoire de location, de colocation à Paris, mais vraiment qui nous plaît à fond. Là.
Ah, qui nous donne un bonheur fou. L'association Basiliade vient d'ouvrir, avec le soutien de la mairie de Paris, un hébergement pour personnes LGBTI+, en errance. Dans l'ancien appartement occupé par l'égérie de la Manif pour tous, c'est l'épilogue d'un feuilleton à rebondissement. En 2013, en plein cœur des débats et des manifs sur le mariage pour tous, Virginie Thélène, alias Brigitte Bardot, était la porte-parole des anti-égalités des droits. Dans le Figaro, en date du 25 juin 2013, on apprenait que Brigitte Bardot occupait un logement social de 173 mètres carrés en duplex, non loin de la Tour Eiffel, tout en étant propriétaire d'un appartement hérité de sa mère. La régie immobilière de la ville de Paris enclenchait alors une procédure d'expulsion du logement social, car Brigitte Bardot y hébergeait des activités commerciales d'une société de son mari. Mais l'expulsion prendra du temps. Et ce n'est qu'en octobre 2014 que Brigitte Bardot quittera son logement. 7 ans après, voilà la coloc LGBTI+, ça aura quand même mis le temps.
Et voici les brèves, et nous allons direction la France avec une libération tant attendue.
Et oui, Fabien Azoulay est libre. Ce Français, condamné à presque 17 ans de prison en Turquie, puis à 5 ans d'emprisonnement à Paris, après son transfert en France pour détention de stupéfiants, a été libéré dans le cadre d'un aménagement de peine.
Moins drôle, un meurtre maintenant.
Nettement moins drôle, le 18 août dernier, le corps d'un étudiant originaire de Tours avait été retrouvé dans un étang à Planche-Bas, en Haute-Saône. Un couple a été mis en examen pour complicité et trois personnes écrouées, dont son petit ami. Ils auraient avoué la préméditation de ce crime pour lui voler 200 000 euros de crypto-monnaie gagnés peu de temps avant.
Quelle histoire sordide. Valence, une condamnation.
Condamnation à 12 ans de réclusion criminelle pour l'auteur d'agression homophobe en décembre 2018. 12 ans. L'homme avait séquestré et violenté sa petite sœur dont il avait découvert l'homosexualité avant de s'en prendre à ses deux amis dont une ex-compagne à qui il a lacéré le visage lui infligeant des cicatrices à vie. Le tout dans un contexte d'humiliation sadique sur fond d'homophobie.
Une étude qui prouve qu'il y a encore du travail.
Et oui, 36% des personnes ayant fait leur coming out au travail y voit un désavantage. Une étude du cabinet BCG en partenariat avec Tétu montre que le coming out au bureau reste compliqué en France. Ainsi, seuls 8% des personnes LGBTQ+, considèrent le coming out comme un avantage au travail, loin derrière la moyenne internationale qui est de 24%. En France, un actif sur trois, 36%, ayant fait son coming out professionnel, estime que c'est un désavantage pour sa carrière. 57% des salariés pensent qu'un coming out n'a pas d'incidence sur la carrière.
Un grand merci, Jean-Luc.
Plaisir.
Bon retour avec nous, bientôt, et en tout cas dans 15 jours, au moins, pour que nous puissions tous, mais alors vraiment tous, en profiter en ta présence. Alors maintenant... Oh non, on va pas continuer, ça, on va pas revenir à l'information. Non, on va pas faire ça maintenant, en tout cas, c'est pas possible, parce qu'autrement, nous aurions un trop gros problème, et ça nous permettrait absolument pas de pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est quoi ça, Randy R? Tout simplement, quelle histoire! Nous prenons maintenant la direction de Rouen, pour accueillir une nouvelle invitée, c'est une voix féminine, c'est Géraldine qui est bénévole à Fierté Colorée. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir tout le monde.
Alors comme on continue notre tour des différents centres LGBTI+, tu vas nous présenter Fierté Colorée pour commencer. C'est une association qui existe depuis longtemps ou pas ?
Alors Fierté Colorée, en fait, oui, on a démarré en 2017. Oui. On était à l'époque antenne de Rouen du centre LGBTI de Normandie, voilà. Puis antenne a grossi. Alors du coup, on a décidé de déposer des statuts pendant le confinement 2020. Enfin, il fallait s'occuper.
Voilà.
Et puis du coup, en fait, des naissances vraiment de Fierté Colorée en 2020, je crois en mars, un truc comme ça. On est basé au Diablo Corps, c'est un local privé interassociatif qui héberge beaucoup de collectifs et d'associations à Rouen, donc 100 rue Saint-Hilaire, derrière le CHU. Et voilà, donc on continue à se développer là-dedans, l'asso a grossi, il y a de plus en plus de monde, on fonctionne en collégial. Je parle rapidement des permes peut-être.
Oui, vas-y.
Alors, on a la perme qu'on appelle la perme générale, c'est un temps d'accueil le second samedi du mois. On a la perme asile LGBTI. Plus le premier samedi du mois, on a une permanence d'info et de convivialité pour les personnes trans. On a aussi des permanences santé sexuelle en partenariat avec l'ENIPS. Qu'est-ce que j'ai zappé ? Non. Ah oui, on a une perme à Évreux depuis l'année dernière. Voilà, donc celle-là.
Effectivement, c'est important. Et si on parlait de la queerothèque, j'ai une petite idée de ce qu'il peut y avoir, mais donne-nous du détail et allèche-nous.
Alors, un des emblèmes du Diablo Corps, c'est quand vous arrivez à l'entrée, on est en plein milieu dans ce qui était avant. En fait, le Diablo Corps, c'est une ancienne maison de ville qui a été achetée par l'association du même nom, le Diablo Corps. Et un des lieux qui est un peu emblématique pour tout le monde, c'est la bibliothèque, parce qu'en fait, au départ, c'était un projet de bibliothèque idéal. Donc, toutes les différentes organisations qui vivent dans le lieu ont donné des idées de ce qu'elles aimeraient voir. Et du coup, forcément, Fierté Colorée étant là, il y a une partie de la bibliothèque qu'on a rebaptisée la Queerothèque. et qui est un peu notre bibliothèque idéale avec tous les bouquins sur la littérature queer et enfin tout ce qui peut nous alimenter.
Et tout ce qui peut sortir actuellement, je suppose.
Exactement, en lien avec, on regarde beaucoup ce qu'on trouve sur les mots à la bouche. Et l'idée, du coup, pour faire vivre la bibliothèque, au-delà des permanences de la Bibli, c'est de faire venir des auteurs, d'en parler, de comprendre un peu leur démarche, et puis pourquoi pas de proposer aussi des temps d'écriture collective. Voilà. D'accord. Et donc, on a fait l'inauguration là, il n'y a pas très longtemps, en octobre, en faisant venir Lexi. Pour les personnes qui sont sur Instagram, c'est Agressive Litrans, qui a fait un super bouquin de pédagogie qui explique un peu toute sa démarche via Insta et un peu le buzz que ça peut créer. C'est quelqu'un de très, très, très suivi. Donc, c'était super riche comme échange. Et puis, c'était un moment fort et très joli, quoi. D'accord. Parce que c'est l'aboutissement pour l'asso de la collecte d'ouvrages qu'il y a eu autour, d'aller chercher les sous, réfléchir à ce qu'on aimerait avoir dans l'intérieur, pourquoi. Mmh. Et voilà. Donc ça, c'est notre petite queerothèque qui, je pense, va devenir de plus en plus grosse avec, à la limite, des murs. Hein.
D'accord.
Et puis des livres des autres organismes de l'asso aussi. Hein.
Est-ce que tu peux nous parler aussi de votre engagement dans le squat du Jardin Joyeux.
Joyeux. Alors, le Jardin Joyeux, c'est un squat qui est actuellement ouvert. Si vous aimez suivre l'actualité normande, et notamment celle de nos marines, vous pourrez voir qu'il y a un ancien foyer de jeunes filles qui est au-dessus du théâtre des Deux Rives, qui lui aussi a été occupé il n'y a pas très longtemps quand les intermittents du spectacle étaient très très actifs un peu partout en France d'ailleurs. Donc le Jardin Joyeux, il est ouvert depuis, il était inoccupé depuis très longtemps bien sûr, et il est ouvert depuis cet été. C'est un projet qui est c'était des locaux de la ville qui ont été vendus à un promoteur immobilier. Il y a tout un tas de problèmes juridiques, il y a des façades qui sont classées, il y a une chapelle, et puis du coup il y a l'idée pour ce promoteur de raser les murs pour en faire des logements de haut standing, alors que en fait je pense que voilà, Stéphane et moi on est malades, mais je pense qu'il y a plein de gens qu'on fronde en ce moment, et que comme à Rouen en particulier, comme partout en France, je pense, il y a des gros problématiques d'hébergement.
Oui.
Pour les personnes migrantes, entre autres, mais aussi pour des personnes qui sont isolées, qui se retrouvent à la rue, et qui, du coup, sont bien contentes d'avoir trouvé ce lieu où, maintenant, il y a de l'eau, l'électricité.
Mm-hmm.
Donc, il y a des camarades de l'association du Diable au Corps et de Fierté Colorée qui notamment vivent là-bas. Et donc, forcément, on soutient le maintien de cet endroit, de façon, son maintien ouvert, pour qu'il puisse continuer à héberger ces personnes, parce que c'est quand même un ancien foyer, donc il y a beaucoup de place. Vraiment beaucoup de place. Et même en étant occupé, il n'est pas plein. Donc, c'est dommage, de se dire que les gens qui vivent là pourraient être expulsés, alors qu'en fait, on n'a pas d'autre endroit. Enfin, si elles sont là, c'est qu'elles n'ont pas trouvé mieux. Donc, la rue, c'est pas mieux que ça.
D'accord.
Donc, on soutient cet endroit. On soutient, bien sûr, les camarades qui se retrouvent en justice. Et puis derrière, il y a tout un projet aussi autour des potagers collectifs, de la biodiversité, de maintenir le jardin. On l'appelait Jardin Joyeux parce qu'en fait, même les gens du quartier viennent pour participer autant de travaux du jardin qui est au milieu en fait du foyer.
Alors, dans nos 4 minutes qui restent, peux-tu nous échanger quelques informations concernant le projet d'expo itinérante qui se poursuit ?
Alors, le projet expo itinérante, il a déjà 3 ans. C'est une collaboration avec le Musée national de l'éducation et Canopée, d'une manière générale, on a de la chance, nous, il est basé à Rouen. Et en fait, c'est venu du fait que les profs qui sont là-bas cherchaient des références LGBTQI+, pour aborder ces thématiques avec les élèves, et n'en trouvaient pas. Il n'y avait rien de référencé.
Mmh.
Donc, du coup, les gens de Canopée nous ont contactés. On a commencé une collaboration. Il en est issu une expo qui est sortie en planche et qui a été soutenue financièrement par la DILCRA.
C'est ça.
Et qui circule maintenant un peu partout, qui est assez, assez prisée parce que finalement, c'est un outil pédagogique pratique.
Et c'est quoi le support exactement ?
Alors, c'est des planches. En fait, on s'est dit que ça serait optimiste de partir de l'histoire d'éducation en France. Parce que justement, le musée, ils ont des archives qui sont assez rigolotes. À l'époque où il n'y avait pas encore la séparation de l'Église et de l'État, jusqu'à le moment où on a eu le financement d'ILCRA. Donc du coup, on voit l'évolution des lois. Et puis on voit aussi l'évolution des mœurs. Et il y a des images d'Épinal, de maman à la maison, jusqu'à comment l'éducnat s'est emparé des thématiques arrivées.
D'accord.
Du VIH, la contraception.
Mmh.
Et voilà.
Et c'est sous forme de panneaux que vous envoyez aux structures qui en font la demande, avec tout un protocole, une signature de contrat, de prêt, je suppose, ou de mise à disposition. D'accord.
Voilà, mais c'est pas nous qui le faisons, c'est Canopée.
D'accord.
Ils sont équipés pour ça. Ils sont en voie de Canopée à Canopée.
D'accord, très bien. Et enfin,
il y a des formations disponibles.
Ouais. La Pride 2022.
Ouais, on est optimiste, on se dit qu'on n'aura plus de problèmes d'épidémie.
Il n'y a pas que vous.
Donc du coup, la semaine prochaine, on démarre les premières réunions pour réfléchir à ce qu'on veut faire.
Oh, décidément, vous aussi.
Bah bien sûr, c'est parce que comme c'est lourd, il est temps de s'y mettre. En fait, on se dit que en s'y mettant plus tôt, on a des chances d'arriver à s'organiser de façon à être cool. On sait déjà que nous, ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on a une collaboration avec la Friche Lucien qui nous permet d'avoir un mois des fiertés à la fois festif, militant, avec la possibilité d'accueillir des artistes. Mmh. Donc cette année, on espère qu'on va pouvoir les accueillir parce qu'on a quand même été privés de musique amplifiée pendant un moment.
Oui.
C'est regrettable quand on a des espaces comme ça qui peuvent accueillir du monde. Donc voilà, là c'est ouvert. Les artistes ont à nouveau réinvité Barbara Bush, Kiddy Smile. Voilà, ça peut être très 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 bien. Et donc, on s'y met. Et puis, j'espère que du coup, ailleurs, par tous les gens qui écoutent, là, réfléchissent aussi à ce qu'ils aimeraient avoir pour les prochaines festivités.
Exactement. Mais c'est un fait que, dans ma jeunesse, et ça fait un bout de temps, et dans mes responsabilités passées, c'est vrai qu'on était à 16 associations organisant des marches en France, et aujourd'hui, quand on regarde et quand on compte véritablement toutes les initiatives, je crois que je me suis amusé à le faire et j'ai oublié le chiffre, mais on est entre 30 et 40, quoi, par année.
Ouais.
Hein. Donc, et maintenant avec un grand spectre calendaire, puisque tout cela a été grandement bousculé, et nous-mêmes à Angers qui étions souvent la première marche en France, on s'est retrouvé donc ce mois-ci le 25 septembre. Donc maintenant, ouais, il n'y a plus de règles véritablement et que finalement, bon, eh ben, ça se fait tranquillement et c'est pas bien grave. En tout cas, un grand merci Géraldine. On rappelle que tu es de Fierté Colorée Rouen. On t'embrasse et puis au grand plaisir de nous retrouver prochainement. Ciao, bonsoir.
Ciao.
Bon Jean-Luc, tu as vu l'heure ?
Oh là là, mais il est tard.
Ça passe vite.
Mais oui.
Tu devrais déjà être au lit.
Mais oui, exactement. Enfin, une petite série peut-être avant, une petite lecture, et puis hop, dodo.
Bon allez, avant de fermer les pages de ce quasar on the air, nous jetons un coup d'œil sur celle de l'agenda. Alors, le samedi 6, 13, 20 et 27 septembre, rappelle-nous ce qui se passe. C'est très mystérieux.
C'est une colle ou quoi ?
À 17h.
Oui, à 17h le samedi ?
Oui.
Les permanences du local. Oh là là, mais j'étais déjà la tête dans la voiture.
Ah oui, c'est ça.
Oui. Ce sont les permanences au local où une personne le plus agréable possible. Enfin, voilà. En tout cas, c'est moi, mais il y en a d'autres qui sont super bien aussi.
Ça va être répété.
Filles et garçons, oui. Qui vous accueilleront avec beaucoup de plaisir au local qui se trouve 15 rue de Jérusalem. Est-ce qu'on connaît la ligne de bus qui nous a...
C'est la ligne... passe sur Pasteur.
Voilà.
Voilà, les lignes 1 et autres, mais principalement le week-end, c'est la ligne 1 sur Pasteur au-dessus. Alors lundi 8 novembre à 19h, c'est la réunion bilan de la Pride avec les partenaires, toujours chez Quasar, 15 rue de Jérusalem. Mercredi 17 novembre à 18h, c'est la réunion du pôle droit des étrangers et des étrangères pour apprendre et pour se concentrer sur l'accompagnement des demandeuses et demandeurs d'asile. Le vendredi 19 novembre à 20h30, ça sera la conviviale. Alors l'ECA vous dira si d'ici là on change de mode d'organisation. On pourrait se faire un ciné-club, quelque chose organisé sans forcément manger, sans prendre de risques.
Des jeux de cartes aussi.
Voilà, entre autres. Et puis les vendredis 26 et samedi 27 novembre, ça sera la formation du Ravad à laquelle Quasar participera avec volupté, disons-le, très nettement. C'est déjà la fin. C'est passé à une vitesse, cette affaire.
Oui, incroyable.
Avec Kevin et Géraldine.
Agréable, tous les deux, vraiment. Et puis, très instructif.
Et puis, les infos de notre grand spécialiste, Jean-Luc.
Envoyé mondial.
Bon, allez, on se fait la bise.
On
se dit dans 15 jours. Vous restez sur Quasar on the air et surtout sur Radio G 101.5. À dans 15 jours. Ciao, bye bye.
Bye bye. We'll be right back.